Le journal avec vous, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Le sud de la France touché à son tour par les incendies. Près de 4000 hectares sont partis en fumée depuis hier soir dans le Var. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Tout ça, pour ça, l'amertume des anciens militaires américains comme français engagés en Afghanistan alors que le pays est retombé sous le joug des talibans en un temps record. Une crise afghane qui fait craindre une crise migratoire en Europe. Emmanuel Macron prend les devants et entend porter une initiative européenne pour anticiper les flux de réfugiés.
À 7h50, Haïti, le grand chaos, le séisme dans l'un des pays les plus pauvres du monde, ravagé par la guerre des gangs, la corruption et la crise politique. Nous serons avec Didier Lebray, ancien ambassadeur de France en Haïti, au micro Inter dans un quart d'heure.
France Inter.
Des milliers d'habitants et de touristes évacués dans le Var.
En raison d'un incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi au pied du massif des Morts sur la commune de Gonfaron. Un feu dont la vitesse de propagation est fulgurante d'après la porte-parole des sapeurs-pompiers du Var, la commandante Delphine Vienco. Près de 4000 hectares de forêt garrigue sont déjà partis en fumée. Une douzaine de campings ont été évacués et ont été détruits par les flammes dans l'arrière-pays de Cavalaire et de Saint-Tropez, notamment à la Croix-Valmer, Grimaud, Gassin ou encore à la Maule. Nous sommes sur place dans un instant, mais d'abord, ce témoignage recueilli par France Bleu Provence. Damien évacué avec sa famille du camping de l'Argentière à Cogolin.
On était parti en balade Lavandou, petit restaurant tranquillement. Et au moment de revenir, on voyait vraiment la fumée s'épaissir sur la route, où vraiment on voyait dans les feux de la voiture. On arrivait au camping, scénario catastrophe un petit peu. Les barrières grandes ouvertes, il y avait des gens un petit peu perdus qui couraient avec les sacs. On a vraiment pris le strict minimum d'affaires, les affaires de la petite, un sac avec le lait. C'est vrai qu'elle a énormément paniqué, donc c'était un peu des pleurs tout ça. Mais bon, après dans la voiture, ça s'est calmé. Heureusement, on est arrivé tout de suite sur un petit village, La Maule, qui est vraiment à la sortie. Ils nous ont tout de suite donné les clés de la médiathèque qu'on a été... mis sur des petits lits, matelas, tout ça. La petite a pu faire sa petite nuit tranquille. On doit être à peut-être 3-4 familles hébergées dedans. Franchement, ils ont vraiment bien réagi, quoi.
Bonjour Nina Valette.
Bonjour.
Vous êtes à Cavalaire-sur-Mer. Quelle est la situation sur place, Nina?
Alors moi, je suis devant une salle des fêtes qui ressemble à un lendemain d'anniversaire. Vous savez, quand on a 16-18 ans, qu'on invite tous ses copains et qu'à la fin, tout le monde dort par terre sur l'estrade de la salle de fête, dans la cuisine ou bien sur des chaises. Sauf que cette fois, ce n'est pas un lendemain de soirée arrosée, juste des vacanciers qui ont dû évacuer entre minuit et 1h du matin les campings sur les hauteurs. Certains dorment encore enveloppés dans leur sac de couchage. C'est d'ailleurs souvent le seul bien qu'ils ont eu le temps d'emporter avec eux. D'autres dorment sur le parking, dans leur voiture. On en croise également sur la route, ici et là. Mais pour beaucoup, ça a été nuit blanche. On va pas se mentir. Comme cette vacancière de Dijon qui a eu très peur dans sa tente en toile avec sa fille. Même avant l'ordre des autorités, cette maman a vu les fumées s'épaissir. Elle a donc quitté le camping de retraités m'ont confié. Elles aussi qu'elles ont passé une nuit très très difficile, irrespirable même, me disait-on. Des vacanciers très surpris par la situation. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, pas vraiment. Ils sont en vacances, ils n'ont pas suivi l'actualité, ils n'étaient même pas au courant finalement qu'un incendie était en train de ravager le Var.
Merci Nina Valette en direct de Cavalaire-sur-Mer pour France Inter. L'Afghanistan est aux mains des talibans. Après son silence, la communauté internationale réagit. Emmanuel Macron puis Joe Biden ont pris la parole hier soir après des événements historiques. Nous y revenons dans un instant. Une histoire qui semble en tout cas se répéter en Afghanistan. 25 ans après la première accession au pouvoir des talibans, 20 ans après l'arrivée des forces américaines au lendemain du 11 septembre et avec elles, les premiers soldats français. Ils ont été plus de 4000 engagés dans ce pays. 89 d'entre eux n'en sont pas revenus. Morts au combat. Sont-ils morts pour rien? Cette réflexion traverse l'esprit des anciens militaires et des familles des soldats tués, rencontrés par Corentin De Buire et Jean-François Fernandez.
Patricia Rabani habite le petit village de Pensière en Haute-Saône. Depuis quelques jours, elle regarde les images à la télévision de l'Afghanistan. Le 7 septembre 2011, son fils de 36 ans, père de 3 enfants, le capitaine Valérie Tolly, du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, est tué en opération en Afghanistan.
C'est maintenant que je me rends compte de la valeur de la mort de mon fils. Pas quand il est mort sur le coup, on se posait des questions. Après, quand l'armée française est partie, on s'est dit mais pourquoi tout ça, pourquoi tous ces morts, puis maintenant qu'ils sont partis, qu'on voit le résultat, maintenant que tout le monde part, hein, pas seulement les Français, Et ben on se dit, ben merde, s'il servait quand même à quelque chose.
Gaël, ancien militaire, originaire de Vesoul, était en Afghanistan en 2006, en OPEX, comme on dit à l'armée. Aujourd'hui, il se pose des questions.
On était vraiment là pour sécuriser un peu le pays. Et maintenant, quand on voit tout ça, ben, on a servi à rien. C'est triste à voir. Il n'y a pas de mou, en fait. Je crois que c'est atroce. Là, ça me fait vraiment de la peine de voir tout ça, en fait.
Depuis 2001, début de l'intervention militaire internationale, 90 militaires français ont perdu la vie en Afghanistan.
L'Afghanistan, qui ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme, les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors d'une allocution d'une dizaine de minutes depuis le fort de Brégançon. Le président qui s'engage à évacuer certains Afghans, particulièrement menacés par les talibans en raison de leur engagement. Mais hors de question pour autant d'accueillir tous les Afghans, car une autre histoire pourrait bien se répéter, celle de la crise migratoire qui a fait vaciller l'Union européenne en 2015 avec l'afflux de réfugiés syriens. Notamment, le chef de l'État a adopté une position de fermeté pour mieux répondre à la petite musique qui se faisait entendre dans la classe politique sur les conséquences de cette crise afghane, Simon Le Baron.
Vagues migratoires, submersions, tsunamis, depuis deux jours, droite et extrême droite n'ont cessé d'agiter la menace que représenteraient ces arrivées de migrants afghans. La promesse de protection d'Emmanuel Macron ne suffit pas à rassurer le RN et son porte-parole Laurent Jacobelli.
Ah, écoutez, sur le papier, ça sonne bien. Mais on a bien vu pendant la crise syrienne que des centaines de milliers, même un million de réfugiés sont arrivés en Europe, absolument librement. Or, ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois, ça ne marchera pas la troisième fois.
Le chef de l'État a tenté de répondre à ceux qui, de Marine Le Pen à Xavier Bertrand, réclament de la fermeté.
Non mais il n'y a rien à dire sur le discours du président ce soir.
Mais chez les Républicains, on demande à voir le maire d'Antibes, Jean Leonetti.
Là nous attendons les actes parce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement actuel est très efficace contre l'immigration clandestine.
Le président cherche à parler à la droite. Attention au passage à ne pas oublier nos valeurs, avertit le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Que dirons-nous si dans quelques semaines, dans quelques mois, ces femmes, ces hommes qui ont cherché à vivre selon des valeurs qui sont les nôtres, se retrouvaient lapidés, pendus ou exécutés. Si nous n'avons pas été à la hauteur, que dirions-nous à ce moment-là ?
À l'approche de la présidentielle, le drame afghan et ses conséquences seront aussi un enjeu politique franco-français. Emmanuel Macron a montré hier soir qu'il en avait bien conscience.
Simon Le Baron, outre-Atlantique, pas de petite musique mais un grand silence. Celui de Joe Biden qui s'est abstenu de toute réaction pendant le week-end. Le président américain cible de vives critiques face au départ jugé précipité d'Afghanistan est finalement sorti de son mutisme. Il n'y a jamais de bon moment pour retirer les forces américaines, a déclaré le locataire de la Maison Blanche, qui ne regrette pas sa décision. Joe Biden qui concède toutefois que la prise de pouvoir des talibans s'est déroulée plus rapidement que prévu.
7h37, la barre des 10 000 patients Covid hospitalisés a été franchie.
D'après les chiffres publiés par Santé publique France, 10 151 personnes sont à l'hôpital. C'est le niveau le plus élevé depuis fin juin, Étienne Monin.
La France retrouve le niveau du 22 juin, deux jours après la levée totale du couvre-feu. Plus de 350 personnes ont été hospitalisées sur les dernières 24 heures. Le nombre d'admissions s'est sensiblement renforcé depuis le début du mois d'août. À l'échelle du territoire, la tension hospitalière est jugée modérée, mais elle est en forte progression et il y a de très grosses disparités. La saturation des services est très forte en Martinique et en Guadeloupe. Elle est inquiétante en Haute-Corse, dans le Vaucluse et dans les Hautes-Pyrénées. La circulation du virus est très prononcée sur toute la façade méditerranéenne. La courbe des contaminations a sensiblement ralenti depuis la fin juillet, mais elle est toujours orientée vers le haut. Très, très majoritairement, les personnes qui entrent à l'hôpital ne sont pas vaccinées. Mais pour autant, la vaccination n'offre pas une protection totale contre la contamination au variant Delta, qui est devenu ultra majoritaire.
Étienne Monin, la rentrée scolaire sera plus chère. L'allocation de rentrée scolaire 2021 est versée à partir d'aujourd'hui à 3 millions de familles modestes. Pas de supplément de 100 euros comme l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Comptez donc de 370 à 404 euros par enfant selon leur âge et vos revenus. Une aide peut-être davantage attendue cette année pour acheter fournitures, mobiliers et vêtements, d'autant que la rentrée coûte donc plus cher, plus de 1% en moyenne, soit 199 euros pour un élève de 6e, Claire Chaudière.
Entre 370 et 404 euros par enfant de 6 à 18 ans, plus qu'utiles, ces sommes sont indispensables dans les foyers les plus en difficulté, estime l'association Famille de France, notamment pour les plus grands en filière professionnelle comme les CAP coiffure. Chantal Huette, sa présidente, a sorti la calculatrice. Coût moyen pour seulement 3 des 20 ustensiles et appareils exigés à la rentrée, 182 euros.
C'est énorme. Une valise qui comprend des ciseaux, qui comprend un bol à coloration, un sèche-cheveux, la mallette atteint très rapidement un prix qui va prendre sur son salaire d'apprenti.
Cette année, pas de coup de pouce supplémentaire de 100 euros lié à l'épidémie.
Malheureusement, il n'y a plus la prime Covid que nous avions l'année dernière, effectivement. Mais les collégiens vont devoir porter les masques. Il y a forcément un impact sur le budget.
Récemment interrogé par la Cour des comptes sur la pertinence et l'utilisation de cette allocation de rentrée scolaire, le tissu associatif le répète.
Cette allocation est très juste. Elle est juste et elle est justifiée. Et il faut aussi faire confiance à la famille, qu'elle est bien utilisée parce que les familles en ont besoin.
Une aide qui pourrait malgré tout être améliorée, selon Famille de France, un peu plus modulée notamment, en incluant les enfants dès 3 ans, et une enveloppe pour des équipements numériques, souvent hors de portée pour les familles les plus modestes.
Claire Chaudière pour France Inter.
Enfin, c'est le roman policier le plus vendu dans le monde.
À près de 100 millions d'exemplaires, Hélène. Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, sorti en 1939, revient sur les écrans ce soir, rebaptisé Ils étaient 10. Une version série qui retrace en 6 épisodes le polar à succès et une adaptation 100% française réalisée par l'un des grands noms du cinéma d'horreur. Un coup de poker plutôt réussi, Corinne Pellissier.
Avec son Sherlock Holmes 2.0, la BBC en 2010 avait ouvert la voie, dépoussiéré les classiques de la littérature britannique avec des héros plus jeunes, plus connectés et surtout bien ancrés dans leur époque. Adieu donc ici les années 30 et la rudesse de l'hiver au large de l'Angleterre pour un décor plus exotique sur une île des Antilles aujourd'hui. Des caméras partout, une fausse ambiance de jeu façon Koh-Lanta et des personnages rajeunis, féminisés et filmés selon les codes du genre de l'horreur par le réalisateur Pascal Laugier. Un pari osé, initié par la productrice Sophie Réville, à la tête déjà des petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2.
Elle a écrit vraiment un livre pour faire peur. Même la couverture du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les petites statues, était très effrayante. Je voulais que les spectateurs retrouvent ce sentiment. C'est un slasher grand public, on va dire, qu'on peut regarder en famille, qui n'est pas monstrueux.
Porté par un casting de célébrités adoubé aussi par les héritiers de la romancière, la série devrait plaire pour son atmosphère oppressante, sa réalisation nerveuse. La mécanique est respectée avec toujours 10 meurtriers, mais une intrigue plus moderne, autour par exemple des violences faites aux femmes ou du harcèlement au travail.
Corinne Pellissier, Ils étaient 10, c'est ce soir 21h05 sur M6.
Et un dernier bilan à l'instant de la préfecture, l'incendie dans le Var, 5000 hectares brûlés, 6 campings évacués, un centre de vacances d'Air France confiné, plusieurs routes coupées, le feu n'est pas stabilisé à l'heure où nous parlons. C'était le journal de Julie Paco, l'édito éco à suivre.